Europe 1.
T'as qu'à leur dire Django veut le même cachet que Clankevol.
Tous les jours sur Europe 1.
Soyez maudits.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Maudits jusqu'à la 13e génération de nos races.
Il paraît que le roi, votre frère, n'est pas très bien membré.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David,
bonjour
à vous.
Bonjour Stéphane.
Et celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre médecin légiste de l'histoire, bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Stéphane.
Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, ils sont dans une autre dimension. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par Léon Battista Alberti qui a théorisé, dans son traité de peinture, les principes de la perspective permettant désormais de représenter les paysages, les lieux et les objets en trois dimensions. Une technique qui va vite s'imposer dans la peinture italienne de la Renaissance. Puis je vous raconte Rod Serling, auteur, scénariste et voix de la série La Quatrième Dimension qui, en utilisant la science-fiction, a pu détourner la censure et montrer les dérives autoritaires américaines sans en avoir l'air. Et après les morts le vivant, c'est vous, Jean-Luc Lemoyne, qui dresserez vers 17h30 environ hein, le portrait de notre troisième personnage du jour, plus vivant mais qui est haut. Alors là, très haut perché.
Ah oui, disons qu'il n'est pas comme vous, ni comme moi. C'est une sorte de David Cassello-Lopez en plus cosmique. Voilà, j'ai dit cosmique, hein, pas parce que comique, c'est pas sûr. Bref, je reviens aujourd'hui sur celui qui a fait parler de lui en 2012, année où il avait annoncé la fin du monde en suivant une prédiction maya, le Christ cosmique autoproclamé, Sylvain Durif, de son vrai nom.
Ah oui. Eux, ils tiennent à leur bonne réputation, ils ne se risquent pas aux prédictions. Ils ne parlent que de ce qui s'est passé dans le passé. C'est plus prudent. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui ou de quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
D'individus qui, d'une certaine manière, eux aussi sont dans une autre dimension. Je pense aux traîtres. J'ai lu pour vous Traîtres, nouvelle histoire de l'infamie. Un livre qui tente de comprendre les ressorts de la trahison chez 15 des plus connus d'entre eux. Et moi, j'ai choisi pour vous Bénédicte Arnold, le héros gâché de l'indépendance américaine. Un étonnant personnage, vous verrez.
Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, et souvent la sienne. Mais pas aujourd'hui, David, hein, David Cassello-Lopez.
Non. C'est les croyances en la Terre plate.
Oui, il paraît que ça fait florès aujourd'hui. Les jeunes...
Oui, c'est peut-être légèrement exagéré, mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ne sont pas sûrs que la Terre est ronde.
C'est les platistes, non?
Les platistes, exactement. Ouais. Les platistes, c'est des militants. C'est eux qui ne sont pas si nombreux que ça. Mais des gens qui ne sont pas sûrs que la Terre est ronde, quand même. C'est ce qui est déjà quand même très problématique. Quoi.
Oui. Alors qu'on en est sûr.
Bah oui, alors là vraiment, autant qu'on peut être sûr de quelque chose.
Très bien. Ouais. Les origines, c'est en toute fin d'émission et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais ailleurs quelle époque, mais ailleurs quelle époque.
Aujourd'hui, on remonte jusqu'au temps de l'Égypte ancienne. On parle médecine avec vous, Philippe Charlier, de contraception en particulier, c'est
et
ça?
Oui, un petit objet qui est rond, là pour le coup on en est certain, c'est la pilule. Eh bien on verra comment dans l'antiquité égyptienne on se prémunissait des grossesses non désirées avec des objets assez bizarres, issus du monde végétal, minéral, etc. Vous verrez.
Ah très bien, parfait. Eh bien docteur, on vous retrouve.
Le problème c'est qu'avec lui on dit toujours ça va être gore à un moment.
Mais non.
Non,
mais
pas non. Aujourd'hui.
Non.
Ça l'est
quasiment
en permanence. Pas. Quasiment pas.
Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Parce que... son petit air de chanteur à la croix de bois, en fait, se cache un grand amoureux des perversions humaines en tout genre.
Oui, exactement.
Vous observateur, le connaissez bien. Simplement. Oui. Observateur, simplement.
Mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40. Et dans trois quarts d'heure, vous avez rendez-vous avec le quiz Burn to be Alive. Enfin, surtout moi, parce que vous savez, je vais concourir contre Clémentine. Et c'est vous l'arbitre, Jean-Luc.
Oui, un arbitre impartial et juste. Dans ce genre de compétition, on dit souvent que l'essentiel, c'est de participer. Et bien, quand vous allez voir les réponses données, effectivement, on constate tous les jours dans ce quiz, l'essentiel, c'est vraiment de participer.
Et c'est déjà pas mal. Alors, on ne se défile pas, nous. Mais pour l'heure, restez bien avec nous, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
savant prolifique, il a touché à tous les domaines du savoir et participé à la révolution humaniste de la Renaissance. En pensant l'homme et le monde de façon renouvelée, il a ouvert la voie à une certaine modernité, même si notre époque l'a quelque peu oublié. Je vous raconte maintenant celui qui a donné une autre dimension à la peinture en y faisant entrer la perspective, Léon Battista Alberti. Nous sommes en 1436, Via dei Bianchi, au cœur de la ville de Rome. Au premier étage de sa maison, plume à la main, devant sa table d'écriture, Léon Battista Alberti, 32 ans, peaufine les derniers détails d'une traduction, celle de son propre ouvrage. L'an dernier, il a publié le livre en latin, mais il vise une diffusion la plus large possible et a choisi de le transposer en toscan, langue vernaculaire à la base de l'italien moderne. Et que ce soit dans une langue ou dans l'autre, le titre reste le même, des Pictura, de la peinture en français. Un traité que cette nouvelle version va donc rendre accessible à ceux nombreux qui ne maîtrisent pas la langue de Cicéron. Pour cette seconde mouture en italien, Alberti a changé la dédicace introductive, désormais adressée à son ami Filippo Brunelleschi, qui vient tout juste de terminer la construction de la splendide coupole de la cathédrale de Florence, cité majeure de ce qu'on n'appelle pas encore la Renaissance. Un ouvrage sur la peinture dédié à un architecte? Oui. Car pour Alberti, ces deux disciplines ne sont que des facettes d'une même et vaste entreprise, celle de comprendre et de penser l'ordonnancement des choses et du monde. Et ce que propose son ouvrage, entre autres, c'est justement la façon de passer de l'architecture à la peinture, de la réalité du volume à l'aplat de sa représentation. En somme, à une nouvelle dimension. Léon Battista Alberti, peintre lui-même, a décidé de partager ses techniques. Ainsi, écrit-il, « D'abord j'ai inscrit sur la surface à peindre un quadrilatère à angle droit aussi grand qu'il me plaît, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l'histoire représentée pourra être considérée. » Le tableau est donc une sorte de fenêtre sur le monde, ou plutôt sur ce que l'artiste veut en montrer et en dire. Une proposition qui peut nous sembler aller de soi, mais qui est plutôt novatrice à cette époque. Jusqu'alors, la peinture médiévale, quasi exclusivement religieuse, ne se donne pas pour but de montrer le monde tel qu'il est. Au contraire, les images sont chargées de sens et de symboles pour délivrer des messages qui ne visent en rien la vraisemblance ou l'imitation de la nature. Les représentations n'en sont pas moins sophistiquées, finement élaborées, mais les peintres ne cherchent pas à reproduire le réel. Or, c'est précisément ce que le XVe siècle voit émerger dans un espace italien chamboulé par la redécouverte de l'Antiquité, un retour au profane et une vision du monde renouvelée. Le beau et le bon, l'harmonie et la perfection ne se trouvent plus seulement dans les voies de Dieu, mais dans l'homme et la nature elle-même, que l'artiste doit s'efforcer d'imiter, et Alberti de révéler comment. Une fois le cadre tracé et la fenêtre ouverte sur le monde, il explique que le tableau n'est qu'une intersection entre l'œil et le réel. Si l'on observe le monde, plus les objets sont éloignés, plus ils apparaissent petits. Et c'est en reproduisant cette différence que la toile permet de transcrire la réalité. Chacun peut s'en rendre compte, certes, mais fort de son érudition et de sa connaissance des mathématiques euclidiennes, Alberti décrit comment le reproduire par l'image. En substance, Léon Battista Alberti propose de peindre un carrelage. Une fois les dimensions de la première rangée de carreaux posées sur une ligne au bas de la toile, on établit un point de fuite sur un horizon à hauteur choisie vers lequel on fait converger toutes les lignes normalement perpendiculaires du carrelage pour simuler la profondeur. Jusque-là, tout est clair. Mais comment tracer les autres lignes horizontales dont l'écartement doit se rétrécir au fur et à mesure pour figurer l'éloignement? Il ne s'agit pas d'y aller au hasard. Alberti, en posant un point à l'extérieur des limites du tableau qui correspond à la distance du futur spectateur, trace d'autres lignes partant de la base du carrelage vers ce second point. Ces obliques marquent donc des intersections avec le cadre qui constitue autant de repères pour tracer les lignes parallèles horizontales, se rapprochant au fur et à mesure qu'elles avancent vers leur point de fuite. L'illusion de profondeur est faite dans des proportions établies selon la position du spectateur et simule donc au plus près la réalité de la vision. La chose n'est pas évidente à se figurer mentalement, d'autant que son explication est un peu opaque. Mais Alberti pose là pour la première fois le principe explicite de la perspective qui permet de transposer de façon réaliste les trois dimensions sur une toile. Entendons-nous, il ne l'a pas inventé. Son ami Brunelleschi, par exemple, en use déjà, mais il théorise par ce traité le fondement de la peinture de la Renaissance et des siècles qui suivront. Étrangement, Alberti, qui se présente comme un peintre, n'a laissé aucun tableau à la postérité, du moins aucun qui lui soit formellement attribué. Certains des artistes qui l'ont suivi attestent qu'il a bien produit des toiles, parfois sévèrement jugées, mais l'important n'est pas tant dans la qualité de ses œuvres que dans la façon de les penser. Car avec son traité, Alberti porte le peintre aussi haut que le mathématicien ou le philosophe. L'artiste, par son rapport au réel, aux proportions et aux harmonies, participe à la compréhension globale de la nature, qui se fait par l'observation, la connaissance, les sciences et l'esprit. La peinture de la Renaissance renverse l'art par des techniques, mais surtout par une façon d'envisager le monde et sa représentation. En l'expliquant dans son ouvrage, Léon Battista Alberti pose un socle majeur de révolution humaniste en cours. Et, vous allez le voir, il ne va pas s'arrêter là. Car Alberti est le parfait exemple de l'homme accompli de la Renaissance. Né à Gênes en 1404 dans une bonne famille d'origine florentine en exil, il suit une éducation raffinée, dévore dès sa jeunesse les ouvrages en latin de Sénèque ou Cicéron, autant que ceux en toscan de Dante, Pétrarque ou Boccace. Il approfondit sa connaissance des lettres, de la musique, de l'arithmétique ou du droit dans les meilleures universités du nord de l'Italie, sans oublier de s'adonner aux activités physiques. Avant de devenir, en 1431, fonctionnaire auprès du pape et de vivre entre Rome et Florence. C'est dans la cité toscane qu'il rencontre justement l'architecte et artiste Brunelleschi et le sculpteur Donatello, des amitiés décisives dans ses réflexions sur l'art. Léon Battista Alberti est insatiable et s'intéresse absolument à tout en cherchant à donner du sens au savoir. À 20 ans à peine, il écrit une comédie et enchaîne ensuite nombre d'ouvrages sur les sujets les plus variés, des manuels de grammaire toscane aux fabliaux, des considérations sur la famille, la politique ou la consolation de l'âme à des écrits ironiques et mordants sur les puissants aussi. Il invente même un procédé de cryptographie. Et De Pictura, son traité sur la peinture en 1435, marque le début d'une vaste trilogie. Suit d'abord De Re Edificatoria en 1452, où l'art d'édifier, véritable somme sur l'architecture au sens le plus large, qui pense autant la position des hommes dans les bâtiments que celle des bâtiments dans la ville et de la ville dans la nature. Puis vient De Statua, de la statue, qui s'intéresse évidemment à la sculpture. Dans tous les domaines, Alberti pense et construit intellectuellement une nouvelle union de l'homme avec la nature au travers des sciences et des arts. Tout est tellement vu par le prisme de l'esprit que Giorgio Vasari, sorte de père de l'histoire de l'art qui écrivit au XVIe siècle des biographies d'artistes, moque le manque de pratique d'Alberti. A on oublié qu'on lui doit pourtant les plans de réalisation architecturale à Florence, Mantoue ou Rimini, qui participent à poser les bases formelles du classicisme de la Renaissance. Mais si le legs principal d'Alberti tient en quelques façades et l'élaboration de la perspective linéaire, il réside surtout dans le fait d'avoir, par ses multiples écrits, élargi les dimensions de l'esprit.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Léon Battista Alberti avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un écrivain qui lui consacre une passionnante biographie. Bonjour Yann Kerlo.
Bonjour.
Yann Kerlo, vous proposez en effet la première biographie en français dédiée à Léon Battista Alberti. Vous avez écrit sur des personnages très différents, mais qu'est-ce qui vous a interpellé chez ce personnage pourtant méconnu en France?
En fait, c'est le fait d'avoir rencontré des amis italiens qui ont été les premiers à me parler de Léon Battista Alberti, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a secoué. Et j'ai commencé par l'art d'édifier, 800 pages. Alors 800 pages, vous êtes calmé, puisque vous savez tout, ou à peu près, sur ce que l'on doit édifier à tel ou tel endroit. Et là aussi, quand vous avez évoqué, il y a quelques instants, la statue de la statue, il faut savoir que pour Alberti, c'était à la fois donner des particules molles à une toile ou à une statue, évidemment, retirer quelque chose, ou par exemple s'attaquer à la pierre, en faire beaucoup moins. Donc, d'une certaine manière, il abonde dans toutes les inventions possibles et il nous donne une impression de grand savoir qui est une réalité, puisque quel que soit le domaine qu'il choisit, il va aller jusqu'au bout.
Mais est-ce que c'est justement parce qu'il était d'une certaine manière un petit peu ou subversif ou en avance sur son temps que ses livres n'ont pas été publiés de son vivant? C'est comme ça que vous l'expliquez?
Alors, je pense, si vous voulez, qu'il y avait entre le livre qu'il voulait faire et le sujet, on était toujours à des altitudes extrêmement élevées. Et donc, quand on s'attaque, on pourrait dire, au clan féministe d'aujourd'hui, la malheureuse femme qui doit être choisie doit avoir à peu près tout. C'est-à-dire une naissance illustre, une fortune qui l'est tout autant, pour des raisons différentes, et en même temps, elle serait en droit de se demander si elle voulait vraiment un beau type ou simplement quelqu'un d'extrêmement fortuné, ou l'ensemble. Bon. Mm-hmm. Et là, il n'a pas été dans le détail, puisque les femmes sont examinées, mais un petit peu comme pour on pourrait dire, une visite médicale de haut vol. Mm.
Vous expliquez qu'il avait des talents extrêmement divers. Moi, il me fait penser furieusement à Pic de la Mirandole. C'est un homme qui s'essaye à tous les domaines de la connaissance. On peut supposer, on peut admettre qu'il ait quelques failles, et notamment dans son jugement sur le choix d'une épouse qui paraît quand même assez ratatinée. Assez, voilà, il faut qu'elle ait tout, qu'elle soit belle, qu'elle soit riche. Enfin bon, oui, mais la réalité dément ce
Alors,
genre de...
La réalité, nous la connaissons assez peu sur le plan des sentiments qu'il pourrait avoir pour les épouses potentielles, ou simplement des amis IES ou IS. Nous n'avons pas tellement de détails sur le sujet, parce que là aussi, il se veut toujours dans une sorte de sommet et il nous donne évidemment l'excellence selon lui.
La vie et surtout la jeunesse de Léon Battista Alberti a été particulièrement difficile. Vous expliquez d'ailleurs dans votre livre qu'il découvre être un enfant illégitime à la mort de son père. Vous dites « Plus qu'une cassure, ce fut un ouragan qui s'abattit sur Léon Battista ». En quoi cette blessure a-t-elle marqué son existence ?
Elle était très importante pour une raison vraiment familiale, puisque je crois, si vous voulez, que pour lui, le choc a été très très important. Un, parce qu'il était mis dehors, et deux, parce qu'il allait s'apercevoir que ses connaissances en droit et en droit canon, qui n'étaient pas si simples à créer que cela, avaient duré beaucoup d'années, tout cela étant pour entrer ensuite à la curie romaine.
Il est quand même dans un lieu et dans la proximité de l'Église qui à la fois se méfie de la science et l'encourage. Et il a certainement bénéficié de cela parce qu'on est, en 404, hein, c'est sa naissance. Donc on est en plein Quattrocento. C'est quand même une période qui se caractérise par des tas de découvertes. C'est une période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Il a bénéficié à plein de ça, diriez-vous.
Bah, il est à la fin de la période féodale. Et ce qui est très intéressant, en tout cas à mes yeux, et sans doute bien sûr au vôtre, c'est que tout d'un coup, vous annoncez comme un peintre de talent et vous expliquez au peintre qui ne le serait pas comment on fait une toile et ensuite comment on fait une statue digne de ce nom. Et toujours avec le même angle d'attaque qui est « je vous donne les éléments majeurs qui vont vous permettre de sortir de l'anonymat ». Et pour lui-même, il faut savoir que son anonymat a été fort long, puisqu'il n'a jamais été publié de son vivant. Et alors, pour les écrivains que nous pouvons être autour de cette table, là, c'est évidemment la chose la plus pénible, puisqu'on vous dit « oui, oui, c'est intéressant, pourquoi pas ?» Ça veut peut-être dire de votre éditeur qu'on en reparlera dans plusieurs années, puisqu'il va falloir choisir un thème différent. Et lui, là, cette certitude de lui-même qui est une force. Parce que à partir du moment où vous publiez des livres qui s'annoncent comme des traités, ça veut dire que vous appartenez au-dessus, mais au-dessus suprême. Vous êtes l'Himalaya de la littérature et vous êtes nécessairement content.
C'est comme je l'ai dit dans le récit, Léon Battista Alberti n'a pas créé la perspective. Il va quand même plus loin que son ami Brunelleschi, puisqu'il pose les jalons de ce que sera la peinture de la Renaissance, à savoir représenter le réel et la nature telle qu'elle est. C'est quelque chose qui est très moderne pour l'époque et ça, c'est au fond le l'essentiel de son héritage.
L'essentiel de son héritage, on peut dire qu'il est d'une excellente qualité et il pourrait se présenter honnêtement comme quelqu'un qui a favorisé les génies ou les gens qui sont des surdoués, puisque, mais vraiment de manière constante, quel que soit le sujet traité dans l'humanisme, ben on peut toujours se reporter à Alberti qui a traité de tout. Donc, non seulement des Grecs et de l'Antiquité gréco-romaine, mais de l'Antiquité du jour, qui est la fin de la féodalité. Et surtout aussi, et je crois que nous aimons tous beaucoup la peinture, moi, ce qui me frappe énormément, c'est que dans la période précédente, les hommes et les femmes étaient présentés d'une manière statique. Là, ce sont au contraire les émotions qu'ils doivent ressentir et nous montrer à nous qui regardons ces peintres en train de faire leurs œuvres, tout d'un coup, vous les voyez évoluer, faire des gestes, et leurs yeux, leurs lèvres sont autant d'indices d'une émotion que vous allez ressentir vous-même, puisqu'elle vous est vraiment, elle vous est apportée sur un plat en or massif qui est celui de M. Alberti.
Et pensez-vous que son œuvre, ses travaux, aient pu influencer ses suiveurs, des Léonard de Vinci ou Michel-Ange qui sont nés après lui? Est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ce travail ou...
Je pense que s'ils ont été d'une grande paresse, ils n'ont pas lu, ils se sont présentés devant leur toile. Mais il y a toujours, je le pense, et c'est aussi vrai pour les écrivains et les hommes de la littérature ou les philosophes, c'est d'abord la réflexion qui crée ce que nous allons faire. Et ce que va faire Alberti, ça va être la même chose. Il va apporter tous les éléments auxquels on n'aurait pas nécessairement songé. Quand on fait appel à lui pour tout d'un coup faire totalement différemment une basilique, en montant à des hauteurs absolument phénoménales le dôme d'une église, ou bien sa façade purement et simplement inspirée là aussi du grec et du latin, avec des textes entiers au-dessus d'un chapiteau, ce sera Alberti qui les aura faits et qui aura compris que ça allait vraiment permettre aux architectes de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Eh bien, merci beaucoup, Yann Carlo, d'être revenu avec nous sur cet esprit humaniste, savant de la Renaissance, qui était protéiforme, artiste, humaniste, écrivain, mathématicien. Et d'ailleurs, le titre de votre biographie le résume assez bien. Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance, paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter sur Europe 1, avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, aujourd'hui, je vais vous gâter. Je sais que vous êtes mélomanes tous les deux, donc j'ai une magnifique chanson pour vous.
Si j'en avais le temps, je t'écrirais une ode. Un poème évoquant ton cul sur la commode.
On va parler
Mon
de cul sur la
commode.
On va parler blanche. De cul sur la commode.
Très bien.
Est-ce que Alors, ça là, vous parle, ça?
Non, c'est une...
Ah bah écoutez, on est dans une émission d'histoire.
C'est
un
tableau de Magritte.
Ah bah on va faire ça tout à l'heure.
Mais avant l'affrontement qui va m'opposer à Clémentine Portier-Kessenbach, je vais lui donner la parole parce qu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de la parution il y a quelques jours du livre « Traître, nouvelle histoire de l'infamie », vous nous racontez un général qui incarne à lui seul la figure de la trahison aux États-Unis, Benedict Arnold.
Ah oui, c'est un traître parmi les 15 autres qui sont passés en revue dans ce livre signé par toutes sortes d'auteurs, d'historiens de premier plan comme Éric Anceau, Thierry Sarment, Jacques-Olivier Boudon, j'en passe et des meilleurs. Eh bien moi, oui, en effet, je me suis arrêtée sur Benedict Arnold. Le texte est de Raphaël Lalou et dont Stéphane le disait à l'instant, c'est l'homme qui est considéré comme le traître américain par excellence parce qu'en pleine guerre d'indépendance des États-Unis, il a changé d'allégeance, il est passé du service des Américains aux tuniques rouges des Anglais. Et comment, de façon tout à fait grave et caractérisée par des activités de renseignement, en acceptant contre de l'argent de livrer aux Anglais la forteresse de West Point, une place forte stratégique dont le commandement lui avait été confié, et enfin tout aussi grave, en 81, en commandant auprès des Anglais contre ses anciens frères de combat, frères d'armes, brièvement, certes, mais directement, une légion américaine qui était passée côté anglais. Et il a fini par fiche le camp à Londres. Il était adoré, admiré par ses hommes, dont il exigeait beaucoup. C'était une tête brûlée. Et dès 1775, il s'engage très sincèrement et intégralement pour les libertés coloniales. Il prend des forts le long de l'Hudson, il s'illustre dans une série de raids contre les Anglais. Si vous voulez, dans toutes ces premières années de guerre d'indépendance des États-Unis, Arnold est l'un des esprits dominants de l'armée américaine. C'est vraiment la figure du héros. Alors, en 1781, il obtient de Washington, qui lui fait entièrement confiance, qu'il considère comme un Lafayette, pas comme son fils, mais enfin qui a la plus grande estime pour lui. Il obtient le commandement de la garnison clé de West Point, qui est l'un des verrous de la colonie de New York. Mais à ce moment-là, l'anglais Clinton lui fait savoir qu'il lui propose une très grosse somme d'argent pour capituler, pour lui livrer West Point. Et dès ce moment-là, Arnold cède et il devient, dans les petits papiers chiffrés en anglais, l'espion Gustavus Monk. Et malheureusement pour lui, son agent de liaison, un certain Major André, est arrêté par des troupes américaines et on trouve sur lui tous les documents qui désignent Arnold comme étant devenu un agent anglais. Ces documents sont immédiatement apportés à Washington, alors que Washington allait précisément arriver à West Point et retrouver son grand ami Arnold. Donc vous voyez, ça s'est joué, en plus c'est très théâtral parce que c'est très dramatique et tragique, ça s'est joué à quelques heures près. À quelques heures près, Washington arrive, l'autre a appris que son agent a été chopé, donc Arnold s'enfuit, bien sûr, il s'embarque sur un navire anglais où vont le rejoindre plus tard sa femme et ses enfants. Le jeune agent de liaison André, lui, qui était un Anglais d'origine française, figurez-vous, lui, il a été pendu, hein. Alors voilà, Arnold, le grand héros déchu, passé au service des Anglais, se retrouve en Angleterre. Et il déclarera plus tard, parce que bien sûr il a cherché à se justifier, d'autant plus que l'histoire lui a donné tort, hein. Il a déclaré qu'il était partisan d'une paix de compromis, un retour des Américains dans le giron anglais, mais libre de leurs affaires et de certains choix politiques et juridiques. Et en fait, il y a bien des Américains qui partageaient cette idée, qui trouvaient que l'aventure de l'indépendance était un petit peu hasardeux et qui se disaient, si les Anglais nous fichent un peu plus la paix sur le plan commercial, s'ils nous lâchent la bride, pourquoi pas rester dans le giron anglais. Et c'est cette hésitation sur l'indépendance du nouvel État qui explique le mieux le geste d'Arnold. Et dans la proclamation qu'il adresse aux Américains en 1780, il dit quand même, en gros, vous ne m'avez pas assez remercié et récompensé pour mes victoires. Là, il y avait quand même derrière ça un gros sentiment d'absence de reconnaissance. En Angleterre, il est reçu par George III. Il est consulté sur les affaires américaines jusqu'à leur terme en 1783. On lui donne des terres et des domaines au Canada. Mais c'est dans le discrédit de sa terre de naissance, dans une suite de duels scandaleux, d'affaires commerciales malheureuses, de procès, de misères, soutenu par sa famille mais sans amis, qu'il termine sa vie au terme de 21 ans d'exil anglais à Londres. Il meurt donc le 14 juin 1801. Voilà, Stéphane, pourquoi il faut que vous pensiez constamment à nous mettre mieux en valeur, Jean-Luc et moi, car nous souffrons beaucoup de cette absence de reconnaissance de votre part. Et nous aussi, nous pourrions bien finir par écrire un nouveau chapitre de traître, nouvelle histoire de l'infamie.
Très bien, merci Clémentine. Et je rappelle que ce livre, cette série, est dirigée par Franck Favier et Vincent Aigle et paru aux éditions Passé Composé. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où on lâche la rampe. D'ailleurs, vous savez d'où vient l'expression « lâcher la rampe », Jean-Luc ?
Ah non, je ne sais pas.
Eh bien, moi non plus.
Ah, bah écoutez, espérons qu'on va apprendre un peu plus de choses dans le quiz, parce que là, c'est mal barré, hein. Allez, on joue ! On commence avec vous, Stéphane. 3 mars 1886, c'est la fameuse conférence d'Istanbul. De cette conférence va naître le traité de Bucarest, qui va reconnaître l'indépendance de l'État de Bulgarie. La Bulgarie a donc le même âge que...
Elle est de 1886.
Exactement, mais c'est une célèbre boisson. Le Coca-Cola.
Ah oui.
Le Coca-Cola. Quand on cite une marque, on se doit de citer les concurrents. Voici ma question. Vous allez voir que tout ça est très tortueux. Parce que...
Est-ce que vous ne pouvez pas me parler de la Bulgarie? Parce que j'ai lu un très bon livre sur le tsar Ferdinand Ier, ouais, et donc ça m'intéresse.
Ça serait trop facile. Ouais, serait non, je vais vous parler de Pepsi.
Ah non.
Le Pepsi tient son nom de la maladie qu'elle était censée soigner. Vrai ou faux ?
C'est quoi la maladie ?
Ah bah, je vais pas vous le dire.
Non, je crois pas que ça soit lié à une maladie. Non. Je crois pas.
Alors, je vous donne un indice.
C'est quoi la maladie ?
Je vous donne un indice. C'est né en 1896, le Pepsi-Cola, 10 ans après le Coca-Cola. Voilà, débrouillez-vous avec ça.
Bon, je sens que vous avez envie que je dise oui, c'est une maladie.
Non, pas du tout.
Alors oui, c'est une maladie.
Allez, c'est une maladie, on vérifie quand même. Hein.
Vous avez gagné.
Ah oui, vous avez gagné. Le Pepsi-Cola, né en 1896, 10 ans après le Coca, il était censé soulager les ulcères d'estomac et... la dyspepsie.
Ah ben oui.
D'où le nom.
Dyspepsie.
La dyspepsie, c'est des ballonnements. Maintenant, grâce à ce quiz, à la place de... Oui. Je me sens ballonné, on pourrait dire, j'ai des dyspepsies.
Mais oui.
Mais oui. Une question pour Clémentine. Clémentine, les auditeurs doivent le savoir, votre expression historique préférée, c'est...
Maudit.
Alors, j'avais oublié celle-là. Alors, la deuxième, c'est... Et mon cul sur la commode.
Ah oui, j'avais oublié.
Une expression que vous dites très fréquemment dans l'émission.
Ah oui, bien sûr.
On sait exactement de quand date cette expression, puisqu'elle date de 1937. Elle vient d'un film, d'une chanson ou d'un spectacle de musical.
Oh, j'aurais un spectacle de musical. Comme vous voyez, à l'époque, ça se diffusait beaucoup. Enfin, même avant, par exemple, Bon Voyage, Monsieur Dumollet, c'était... Il y a des expressions qui sont rentrées dans le langage courant.
Vous utilisez encore beaucoup « Bon voyage, monsieur Dumollet » ?
Je l'utilise beaucoup, mais je le chante.
Alors, vous avez envie de chanter ? Vous avez envie de chanter ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, je disais, voilà, ça vient d'une pièce de musical. Tout le monde le sait.
On vérifie ça, alors.
Vous savez... gagné.
Voilà, c'est la base.
Je n'ai même pas essayé de vous induire en erreur. C'est bien d'un spectacle de musical. L'expression vient d'un spectacle écrit par un duo, Albert Villemette et Rip. Dans le spectacle, une chanteuse s'exclame « Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. »
Ah, mais parce que c'était, bien sûr, c'était une commode avec une sorte de plaque de marbre. Ça rafraîchit.
N'essayez pas de faire semblant d'en savoir plus que vous n'en savez. Une question maintenant pour Stéphane, vous êtes à un partout. Chang Chongzhen fut un sculpteur chinois.
Ah bon,
je vais vraiment que sur les domaines que vous maîtrisez.
Mais il faut arrêter vos questions sur Chang Chongzhen.
C'est important, Chang Chongzhen.
Non mais oui, mais ça fait la dixième que vous nous posez quand même.
Oui, mais Stéphane a écrit deux livres sur lui, donc il faut bien le rentabiliser tout ça. Chang Chongzhen fut un sculpteur chinois proche du parti. Il a été aussi le personnage de Chang dessiné par Hergé dans Tintin et le Lotus Bleu. Voici ma question. Il a sculpté officiellement Deng Xiaoping, Mitterrand, le prince Rainier III ou les trois ?
Ah, ça c'est pas mal.
Ah bah, merci, ça fait plaisir, il y a des gens qui travaillent.
Moi je dirais le prince Rainier, ça sans doute.
Moi je dirais les trois.
Mais Mitterrand, pourquoi est-ce qu'il aurait... Parce que Mitterrand et la Chine, a-t-il eu des...
C'est la même période, les années 80.
C'est soit Régnier, soit les trois.
Les trois.
Vous voyez, Chang Chongzhen, ça vous parle.
Très, très bien. Très, très bien.
C'est une œuvre très inspirante.
Je vois très bien la statue de Chang Chongzhen.
Vous saviez sur quelle matière, déjà ?
Le bronze, le bronze.
C'est du polystyrène.
C'est ça.
Allez,
on vérifie la réponse.
Vous avez... encore gagné.
Les trois, en effet. Celle du prince Rainier est exposée au Palais de Monaco.
Ah oui, je l'ai vu.
Chang a été reçu officiellement par Albert II. Et Chang a reçu la nationalité française en 1985. Il est mort en 1998. Il est enterré à Nogent-sur-Marne.
Ah bon.
Clémentine va-t-elle égaliser ? On va le savoir tout de suite. J'ai envie de vous donner un point, Clémentine. Voici une question très facile. En préhistoire, on parle de paléolithique et de néolithique. On parle aussi d'âge de pierre, d'âge du fer et d'âge du bronze. Concrètement, le paléolithique, c'est plutôt l'âge de pierre, l'âge du fer ou l'âge du bronze ?
L'âge de pierre. Ah, attendez.
Ça commence toujours comme ça. La réponse vient tout de suite et après... Vous êtes sûr de vous ?
Oui.
Ah ben non, parce que j'ai fait, intuitivement comme ça j'aurais répondu bah Pierre, allez. Mais bon non.
Bah, je vous laisse une dernière chance. Vous dites quoi?
Je dis Pierre.
Vous êtes sûr? L'âge de Pierre?
Oui.
L'âge de Pierre. Allez, on parle là-dessus.
Vous avez encore gagné.
Alors grosso modo, le paléolithique commence il y a plus de 3 millions d'années et s'achève il y a 12 000 ans. Le néolithique, c'est l'âge de fer et du bronze. Mais il merci. Va y avoir une question pour vous départager. J'aimerais vous citer de mémoire un poème. Écoutez-moi bien. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer
ça,
au loin les oiseaux.
C'est la, oui. Marie Myriam.
Elle va se taire, elle, 2 secondes. Comme l'oiseau volant, survolant la terre.
Oui, c'est bien dit.
Mais ta gueule.
Vous pourriez mettre le ton et élève le moine quand même.
Vois comme le monde est beau.
C'est
voilà.
Mieux.
Dernière victoire de la France à l'Eurovision.
1977.
Exactement, Stéphane. On compte sur vous pour cette année. Nous l'a ramené la coupe.
La Zara.
Exactement.
Vas-y, évidemment.
Évidemment. Voici ma question. Marie Myriam est née à Kananga. Quand elle est née, Marie Myriam, c'était quel pays? Le Congo belge, la République démocratique du Congo, la République fédérale du Congo ou la monarchie gentille du Congo?
2. République démocratique du Congo.
Moi, je dirais le Congo belge.
C'est Stéphane qui gagne, bah, évidemment. Ouais, ouais. C'est le Congo belge.
Bah oui, mais oui, tout ce qui est monarchie, il connaît ça par cœur, là. Toutes les dates.
Et Eurovision.
Tous les mariages, Eurovision, les princesses, c'est ça. Tous les... Bon, bravo, bravo.
Une nouvelle fois, c'est un triomphe de Stéphane Bern.
Oh non, un triomphe, n'exagérons rien non plus. Hein.
Merci, au revoir, Clémentine. Et historiquement, votre continue sur Europe 1 avec nos personnages du jour qui sont dans une autre dimension.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Son imagination était sans bornes, mais se heurtait parfois aux limites de son temps. Contraint de devoir éluder les réalités de son époque pour plaire à une censure entêtée, il a inventé des mondes pour critiquer le sien. Je vous raconte l'auteur et scénariste pionnier de la science-fiction qui a fait entrer la télévision américaine dans la 4e dimension, Rod Serling. Nous sommes à New York. En ce mois de mars 1956, Rod Serling ne cesse de battre le pavé de Manhattan entre la 77e rue qui abrite le siège de la chaîne de télévision ABC et la 53e où sont installés les bureaux de la Guild Theatre, une compagnie de théâtre. Il faut dire que son dernier opus donne du fil à retordre aux producteurs. À cette époque, aux côtés de westerns, d'histoires criminelles ou de shows musicaux, la télévision offre surtout des fictions réalisées un peu à la manière de théâtre filmé, joué et diffusé en direct. Rod Serling, 31 ans, est un auteur en vue, mais sa récente création « Noon on Doomsday »,« Midi au jugement dernier », pose quelques problèmes. L'histoire se déroule dans une petite ville du Sud lors du procès d'un assassin. Elle laisse entrevoir les aveuglements d'une communauté dans une haine ordinaire au détriment d'un bouc émissaire. Seulement, il y a peu de temps, Rod Serling a admis auprès d'un journaliste que son nouveau drame s'inspirait d'un fait réel. L'assassinat d'un jeune Afro-Américain tué par 2 Blancs dans le Mississippi à l'été 1955. Les meurtriers furent acquittés et l'histoire a déchaîné les passions de l'Amérique. Depuis la publication de l'interview dans le Daily Variety, la chaîne ABC a reçu 15 000 lettres de divers groupes suprémacistes ou bons citoyens qui s'insurgent de cette mise en avant à l'antenne. Pourtant, il n'y a pas de personnage noir dans le scénario. Rod sait le sujet sensible, mais peu importe, ABC ne veut pas aller à l'encontre de son public. Il faut donc modifier l'histoire. Serling enchaîne alors les réunions autour d'un script qui passe entre des dizaines de mains pour être adapté. Et quand le drame est finalement diffusé le 25 avril 1956, le propos est totalement édulcoré. L'histoire ne se passe plus dans le sud profond, mais au nord des États-Unis et au siècle passé. Plus rien ne peut être raccroché à la dérangeante réalité contemporaine. La censure a gagné. Et Rod Serling n'est même pas étonné. Lui qui ne connaît que trop bien le monde de la télé. Né en 1924, Rod Serling commence dès ses études à écrire des fictions pour la radio avant de bifurquer en 1950 vers la télévision alors en plein développement. Il y a cette année-là 3 800 000 postes aux États-Unis. Pour l'anecdote, on en recense précisément 3 794 en France. Dans les années suivantes, la télévision, jusque-là cantonnée aux grandes villes, se diffuse dans tout le pays. 64% des foyers sont équipés en 1955, l'année où Rod écrit Patterns, un drame diffusé sur CBS, ovationné par la critique et le public. Dès lors, son téléphone ne cesse de sonner. Sa carrière explose. Mais Serling sait qu'on ne peut pas dire ce que l'on veut à la télévision. Tout ce qui évoque la politique, la critique trop marquée des inégalités sociales et surtout raciales, doit être adouci, gommé, voire carrément supprimé. Ce qui agace le plus Rod Serling, c'est que cette mesure de censure n'a pas de réels fondements moraux, mais uniquement bassement mercantile. Les programmes de télévision sont financés par des sponsors et des publicités. Les annonceurs tout-puissants ont comme seul souci de vendre et donc de ne pas choquer le public, aussi puritain ou raciste soit-il. À une époque où la simple apparition d'un personnage noir à l'écran peut susciter des réprobations, Serling a vite compris qu'il fallait s'adapter. Mais l'affaire de Noon on Doomsday est allée trop loin. Rod en a assez. « Je ne veux plus me battre, dit-il. Je ne veux plus avoir à faire des compromis tout le temps. Ce qui est par essence le travail d'un auteur de télévision s'il veut mettre à l'écran des thèmes controversés. » Car Rod Serling, sans être un beatnik radical, a des idées, des opinions marquées, autant sur le militarisme forcené qu'il envoyait comme chair à canon dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, que sur les aberrantes inégalités raciales ou le rigide conservatisme de la société américaine dans laquelle il vit. Alors, puisqu'on l'empêche de dire ce qu'il veut, Rod Serling a une idée. Il va changer de dimension. Pas celle de l'écran, non, non, qui reste circonscrit à quelques dizaines de centimètres de large, mais celle de sa propre imagination. Il étend le domaine de son inventivité pour basculer dans la science-fiction. Le 2 octobre 1959 à 22h, quelques 18 millions d'Américains découvrent la voix de Rod Serling dans le générique qui introduit le premier épisode d'un nouveau programme qu'il conçoit et produit lui-même. The Twilight Zone, la zone du crépuscule, tel est le nom de ce rendez-vous hebdomadaire qui sera diffusé en France en 1965, puis dans les années 80 sous le titre La Quatrième Dimension. Une série sans lien entre les épisodes et sans personnages récurrents, si ce n'est Rod lui-même, dont la voix puis la personne sont utilisées en introduction et en conclusion.
You walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one.
Chaque histoire est donc indépendante et développe des aspects étranges, surnaturels ou fantastiques qu'un twist final vient questionner ou éclairer. Les situations sont en général ancrées dans l'époque contemporaine, même si quelques sauts dans le temps ou dans l'espace intersidéral ont lieu. Mais le monde mis en récit par Serling n'existe pas et c'est pour cela qu'il peut y dire ce qu'il veut. En jouant sur l'invraisemblable, il rend encore plus efficace son discours, souvent teinté de critiques de la société américaine. Quand une petite ville ravie de pendre un condamné se retrouve plongée dans une nuit perpétuelle et se fait faire la morale par un révérend noir, on ne peut s'empêcher de penser à Martin Luther King et sa lutte pour les droits civiques. Quand tout un voisinage apeuré par l'arrivée d'extraterrestres vautre dans la suspicion généralisée, on songe à l'anticommunisme sournois qui anime l'Amérique en pleine guerre froide. Quand une jeune fille refuse l'opération qui doit la rendre semblable à toutes les autres, dans un monde où chacun a la même apparence physique, on comprend la critique du conformisme, de la tant vantée American Way of Life. Tous les épisodes, il y en aura 156 en tout, ne portent pas forcément de message. Beaucoup sont juste là pour divertir le public. Mais Rod Serling a trouvé par la science-fiction le moyen de faire passer des idées. Au-delà de laisser libre cours à son imagination féconde, qui plus est, dans une grande qualité esthétique. Mais les temps changent et les goûts aussi. Et après 5 saisons, la série est déprogrammée en 1964. Rod Serling écrit d'autres scénarios, crée un nouveau programme fantastique, Night Gallery, puis prend finalement ses distances avant de décéder en 1975. Les dernières années, l'homme aux 6 Emmy Awards donnait des cours d'écriture mais ne travaillait plus pour la télévision, si ce n'est en apparaissant dans des réclames pour des cigarettes, des voitures ou du dentifrice. Comme s'il s'était résigné, lui qui vilipendait ses incessantes coupures, obstacle à l'imagination, à la victoire de la publicité sur les idées.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Rod Serling, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui a dédié un livre à sa célèbre série. Bonjour Philippe Poitier.
Oui, bonjour Stéphane Bern.
Philippe Poitier, vous avez publié La quatrième dimension, la morale au service du fantastique, consacré donc à la série culte de Rod Serling, un ouvrage dans lequel vous expliquez que cette série avait une approche très différentielle par rapport à ce que proposait jusqu'à cette époque la télévision. Pour vous, c'est le côté jamais vu à la télé qui a fait son succès ?
Oui, dans ce sens qu'il faut effectuer aussi un petit rappel historique. En effet, jusqu'à la fin des années 50, dominaient les dramatiques diffusées en direct, de qualité très moyenne. Et grâce en fait à la créativité de Rod Serling, ses idées dont on reparlera, mais aussi grâce au progrès technique, eh bien, la série a pu justement avoir un grand succès en bouleversant les codes et attiser la curiosité et la fidélité des spectateurs qui étaient pris tout à fait pour des adultes.
La série remporte un franc succès aux États-Unis et pourtant, le pari est risqué. Rod Serling choisit la science-fiction à une époque où elle est quasiment absente des postes de télévision et choisit en plus une série où chaque épisode est indépendant des autres. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que malgré tout, eh bien, les spectateurs, les téléspectateurs sont au rendez-vous et avec une grande fidélité, finalement?
Oui, et justement, la fidélité, c'est la guerre des parties au fil des saisons. Et justement, c'est l'attrait de la science-fiction qui est un genre tout à fait nouveau à la télévision et porté par des cinéastes et des écrivains de grand talent. Eh bien, c'est justement ce genre nouveau a énormément attiré les spectateurs du fait également en portant des histoires indépendantes d'un format accessible de 25 minutes avec un style assez rapide, proche quelque part du roman feuilleton.
Philippe, on sent que dès les débuts de la carrière de Rod Serling, ce dernier a à cœur d'évoquer des sujets qui sont très politiques. Et vous expliquez d'ailleurs, Philippe, dans votre livre, qu'il propose même un scénario qui évoque l'euthanasie. D'où lui vient cette volonté de porter ce type de sujet assez particulier à l'époque à l'écran?
Oui, c'est vrai que The Happy Place parlait justement d'euthanasie et avait été refusé par les sponsors, les producteurs. Difficile de dire, je crois qu'en fait il faut aller chercher cette volonté du cinéaste dans son enfance, sa jeunesse, et grâce à son éducation, à son ouverture d'esprit et à sa participation active en tant qu'écrivain à l'université qui l'ont influencé, ainsi qu'également son expérience guerrière qui l'a manifestement traumatisé. Mais je crois qu'il a trouvé un moyen, peut-être pour exorciser ses peurs, de porter ses idées humanistes.
Jean-Luc,
après avoir écouté le récit de Stéphane sur la quatrième dimension, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même aussi à la série Black Mirror, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques années à sa sortie sur Netflix, parce que le principe est un peu le même, une série d'anthologie, critique de la société et des dérives de la technologie. Est-ce que Rod Serling a finalement inventé un genre à part entière ?
Oui, parce que les séries de 25 minutes comme Zorro ou Les Incorruptibles sont tout à fait contemporaines de la série. Ça, c'est sûr. Mais dans le format, dans la narration, c'est tout à fait nouveau. Je pense qu'en effet, beaucoup de nouvelles séries, voire de films, s'inspirent de la quatrième dimension.
Cette idée de mettre de la vraisemblable et de la science-fiction pour faire passer des messages, c'est brillant, mais personne parmi les diffuseurs ou les sponsors n'ont découvert le poteau rose. Personne n'a rien vu.
Oh, ils l'ont peut-être, ça je ne peux pas vous dire, je crois qu'ils l'ont sûrement vu, mais ils se sont adaptés, et comme pour eux l'objectif était d'obtenir un beau taux d'audience, ils ont peut-être anticipé un éventuel déclin, mais je pense que les sponsors finalement étaient d'accord dès le départ.
Philippe, Charlie.
La série a marché énormément bien aux États-Unis, mais vous expliquez qu'elle a bien moins marché en France. Est-ce qu'on sait pour quelle raison ? Même si à titre personnel, moi je suis totalement fan et je la regarde périodiquement.
Oui, alors il faut savoir qu'en 1965, la série a été diffusée pour la première fois, une douzaine d'épisodes. Alors bon, moi je n'y étais pas, mais c'était un échec. Un échec parce qu'en France, on vivait sous une période assez conservatrice, une période gaullienne, et n'était pas prêt, à mon avis, pour recevoir des histoires un peu surréalistes, tout à fait fantaisistes. Mais il a fallu attendre, à mon avis, mai 68, pour que les mentalités changent, et des séries qui étaient également très fantaisistes, comme The Avengers ou Le Prisonnier, ont très très bien fonctionné. Donc je pense que la série n'était pas adaptée à l'esprit, à l'état d'esprit français de cette époque, contrairement aux États-Unis. Mais par contre, à partir de sa nouvelle diffusion, Partant X, en 1984, là, le succès était manifeste, il ne s'est jamais démenti. C'est un succès, c'est là que j'ai découvert d'ailleurs.
Et Rod Serling finit sa vie en faisant entre autres des publicités pour la télévision, Stéphane l'a raconté. Est-ce que ce n'est pas une fin de carrière assez triste pour l'auteur le plus récompensé de l'histoire de la télévision américaine? Comment c'est possible? Est-ce qu'il n'a pas su se renouveler ou il n'a pas voulu?
Je crois qu'il avait encore pas un grand nombre d'idées, mais c'était un personnage qui était victime peut-être d'une certaine usure, tout d'abord physique, en raison de certains excès, et psychologique, ses traumatismes passés, de la guerre par exemple. Et je crois qu'il était découragé. Et puis il faut dire aussi que son état d'esprit, à mon avis, était réellement fait pour les dramatiques, pour les séries télévisées de courte durée, plus que pour les films.
Et pour terminer, vous expliquez que la série La Quatrième Dimension continue pendant longtemps d'être régulièrement diffusée à la télévision américaine et certains lycées américains proposent même de visionner et d'étudier certains épisodes de l'anthologie. En quoi la série est aujourd'hui un objet patrimonial aux États-Unis?
Je crois qu'elle convoque en fait tout ce qui fait l'histoire et la démocratie des États-Unis, ses mythes fondateurs, la liberté et ses luttes contre le racisme, contre la peine de mort. C'est les traumatismes anciens liés à la guerre, à plusieurs guerres d'ailleurs. La guerre de sécession est souvent évoquée, la guerre américano-japonaise, le nazisme. Ce qui fait qu'elle fait tout à fait, pour cette raison, partie de l'histoire. Et également, elle questionne des données d'ordre philosophique. Et puis le fait que ce soit la première série de cette nature liée à la science-fiction, eh bien, transmise de génération en génération par les parents, les grands-parents, eh bien, font qu'elle reste vraiment marquée et inoubliable à chaque diffusion de la série.
Merci beaucoup Philippe Poitier d'être venu avec nous sur cet auteur multi-récompensé qui a marqué l'histoire de la télévision américaine en ouvrant une quatrième dimension. Je rappelle l'ouvrage que vous consacrez à la série « La quatrième dimension, la morale au service du fantastique » paru aux éditions Omaki Books. Merci beaucoup.
Merci beaucoup monsieur.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castillo-Lopez et Philippe Charlier, on réunit des personnages qui sont dans une autre dimension. Après Léon Battista Alberti et Rod Serling, vous nous racontez, Jean-Luc, Sylvain Durif dit le Christ cosmique.
Sortez vos pierres, votre pendule et vos sachets de LSD, c'est la seule façon possible d'expérimenter le portrait d'aujourd'hui. Rien n'a de sens, tout est déstabilisant, absurde, risible, un peu angoissant et cliniquement préoccupant. Non, je ne parle pas du scénario de la prochaine série de Stéphane Bern, c'est bien pire, mais de la vie et de l'œuvre de Sylvain Pierre Durif, autoproclamé le Christ cosmique. De prédicateur à même sur Internet, en passant par candidat à la présidentielle et client idéal pour les médias en manque de clics, entrons dans la dimension de Sylvain Durif, l'homme qui voulait instaurer le paradis sur Terre grâce à son pouvoir cosmique, ou à un truc dans le genre. Je suis le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, le roi et le pape Pierre, le président de la gouvernance pacifique, planétaire et cosmique Elvita, le président de la France et de tous les pays sur Terre et dans le cosmos. Fin de citation.
Ah oui, quand même.
Oui. Quand quelqu'un se présente à toi de cette façon, sans une once de second degré, tu es en droit de te demander s'il est suivi sur le plan psychiatrique et de lui planter une fléchette anesthésiante dans la carotide. Mais tu peux aussi décider de t'y intéresser et de te retrouver au milieu d'une foule de 250 journalistes. C'est ce qui s'est passé en 2012. Lorsque la France a découvert Sylvain et Bugarache, un village paumé dans l'Aude. Quel est le lien? Bah, si Sylvain y habite. Et en 2012, Bugarache devait être le seul patelin à échapper à la fin du monde. Mais si, souvenez-vous, la prophétie de nos amis les Mayas pour le 21 décembre 2012, après qu'ils aient un peu trop forcé sur la feuille de coca. Donc tout le monde se pointe à Bugarache et notre Sylvain vole la vedette à la prophétie. Il accapare les journalistes et leur explique qu'il n'est pas là pour voir, mais qu'il est là parce qu'il sait. Direct, il se présente comme étant le grand monarque. Et il assure qu'il a aperçu des géants de 3 mètres dans les parages. Bon, ok, soit. Quand on est journaliste, on a la distance nécessaire pour faire face à ce genre de témoignage. Donc on reste et on attend la suite. Sylvain continue en racontant que l'année précédente, c'était deux vaisseaux spatiaux tout dorés d'environ 300 mètres de diamètre et appartenant à la Vierge Marie qu'il a aperçu au-dessus de chez lui. Là, normalement, il n'y a plus que Pèlerin Magazine et BFM TV qui restent. Mais non. Tout le monde est encore là, tout le monde écoute, peut-être aussi par flemme de repartir après s'être tapé le trajet jusqu'à Bugarache. Bref, Sylvain continue. Je cite « Tout ce que je dis, c'est que les militaires établis sous le pic de Bugarache, Ah oui, une base militaire cohabite avec les intraterrestres sous la montagne, mène des expériences douteuses. J'ai vu de mes propres yeux plusieurs personnes qui n'avaient plus que 4 doigts à cause d'eux. Les militaires doivent vraiment arrêter de pratiquer de tels actes. Voilà, je vous présente Sylvain. Je vous laisse quelques secondes, hein, le temps de soupirer ou d'avaler un Nurofen. Mais en vrai, ce que Sylvain essaie de nous dire, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Orcadia, la cité de lumière qui se trouve justement sous le pic de Bugarach. Pour être précis, c'est une vallée verdoyante avec, au centre, un gros diamant au reflet arc-en-ciel. Et il est au courant parce qu'il est en lien direct avec Merlin l'Enchanteur. Pour lui, et Merlin donc, l'accès à cette vallée va nous être autorisé et on pourra ainsi rentrer dans la 5e dimension. Et là, naturellement, vous vous demandez, quand ça s'arrête tout ça? Pardon, non. Comment on fait pour rentrer dans cette 5e dimension? Bah facile! La lumière dorée va descendre en chacun de nous pour éveiller une force d'amour et de compassion. Tout le monde sera concerné, humains, animaux, végétaux, minéraux. Cette 5e dimension nous permettra de voir de plus en plus de choses. Des fées, des gnomes. Des fées, des gnomes. Bon, ça ressemble un peu à la programmation d'une émission de Patrick Sébastien, mais pourquoi pas, hein? En tout cas, Sylvain nous l'annonce dans le plus grand des calmes. Et bien évidemment, eh ben, on attend toujours. Après ça, il s'est fait un peu discret. Et on va pas lui en vouloir, hein? Il faut du temps pour digérer toutes ces infos, faire le tri, réfléchir au sens de notre vie. Et à peine on s'en est remis que, hop, il est revenu avec un nouveau projet, être candidat à la présidentielle de 2017.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France.
En 20 secondes.
On dirait un emploi de télémarketing.
Oui, c'est ça. Mais avec une mauvaise connexion quand même. En 20 secondes de vidéo sur sa chaîne YouTube, il fait basculer l'avenir de toute une nation. Après Fillon, Montebourg, Poutou, c'est notre petite elfe de Bugarach qui se propose de sauver la France. Son programme, la gouvernance pacifique et cosmique évidemment, mais surtout instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. Pas mal, mais malheureusement, rien du tout sur le renforcement des réseaux de sous-préfectures ni sur la TVA des produits énergétiques. Et le pire, notre fragile du bulbe bascule dans le complotisme, et ça c'est pas très Merlin l'Enchanteur si je peux me permettre. Notamment quand il invite les gens à se réunir dans toutes les métropoles du monde.
Afin de vous soulever en fait pour la démission des gouvernements actuels, et notamment le gouvernement français pour commencer, qui est derrière le faux attentat de Charlie Hebdo.
Écoutez, je suis pour la liberté d'expression, mais dans certains cas j'ai quand même des doutes, hein. Heureusement, Sylvain nous propose régulièrement un petit saut de flûte très apaisant, ambiance podcast jardin zen pour s'endormir ou se défenestrer. C'est beau. On dirait un samedi après-midi shopping chez Nature et Découverte. Contre toute attente, là vous n'êtes pas prêt, bah Sylvain n'a pas été élu président de la République. Et après la politique, c'est l'immobilier qui l'intéresse. Il a tenté d'acquérir un château près de Grenoble pour s'y installer et en faire le siège du Royaume de France, du monde et du cosmos. Normal. C'est pas dans un F2A au Aubervilliers qu'on peut gouverner la planète. Est-ce qu'il a réussi? Bien sûr que non. Hein? Pourquoi? Bah parce qu'il a pas de thunes, tout simplement. Il aurait selon lui besoin de 2 millions pour l'achat, puis de 20 millions pour les rénovations, plus un investissement complémentaire de 200 millions sur plusieurs années. A priori, bien que vert et venant certainement d'une autre planète, le bonhomme Saint-Elem n'a pas été très réceptif. J'ai ouvert une cagnotte Litchi sur le site d'Europe1.fr. Si jamais vous n'êtes pas découvert à la fin du mois, n'hésitez pas. Hein? Et si donner de l'argent comme ça, froidement, ça vous plaît pas, sachez que Sylvain vend des messages personnalisés en ligne.
Non.
Si. Pour la modique somme de 39 euros, le Christ cosmique peut vous souhaiter votre anniversaire, vous motiver pour un marathon ou pour arrêter l'alcool. Foncez, ça serait dommage de se priver. Et puis participer à la création du paradis et la gouvernance Elvita cosmique du petit pays des petites fées vertes qui se grignotent la figue en arc-en-ciel sous une montagne audoise. Ça me semble être une bonne action tout à fait légitime. Allez, on se quitte avec un peu de flûte.
Ah oui, il mériterait d'être interdit, ce garçon.
Bah, c'est surtout, on devrait arrêter d'en parler.
Oui. Que vous avez fait très bien cet après-midi.
Si je peux rendre service.
Merci
aussi.
Merci beaucoup, Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui sont dans une autre dimension pour retrouver deux garçons qui nous font voyager dans le passé. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines de ce que certains, des complotistes aussi, osent affirmer, la Terre est plate.
Ouais, exactement. Les origines des gens qui pensent ça.
De ce complot, bien sûr. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque. Aujourd'hui, on parle médecine avec vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte jusqu'à l'Égypte antique pour parler contraception.
Et oui Stéphane, tout le monde n'a pas toujours voulu avoir des enfants. Et on a récemment fêté les 60 ans de la pilule contraceptive. Mais il faut savoir que la régulation des naissances est bien plus ancienne que ça. L'histoire et même l'archéologie ont ainsi livré des formes archaïques de contraception médicamenteuse, ou du moins chimique, et sur des échelles de temps bien plus grandes que notre 20e ou 21e siècle. Alors repartons d'abord en Égypte. Plusieurs papyrus médicaux, le Ebers, le Kaoun, c'est le nom de leur découvreur ou de leur ancien propriétaire, décrivent en effet des méthodes bien précises de contraception, autant destinées aux épouses qui souhaitent s'arrêter là, qu'aux filles non mariées et aux très nombreuses prostituées. Il s'agissait dans la grande majorité des cas de pessaires. Les pessaires, c'est des sortes de tampons qu'on va placer discrètement dans le vagin. Et ces pessaires étaient imbibés de produits minéraux, majoritairement du sel, ou encore de végétaux, de l'acacia, des dattes ou encore du miel. Chacun de ces éléments, c'était pas pour faire de la pâtisserie.
C'était une farce. C'était une farce, c'était bien.
Oui, ça fait un peu farce. Oui, bon, ça c'est pour un autre chroniqueur. En tout cas, chacun de ces éléments, ou en tout cas leur mélange, aurait développé des propriétés spermicides, c'est-à-dire ne favorisant pas une survie prolongée des spermatozoïdes. C'est vrai qu'on les imagine assez facilement englués dans le miel. C'est difficile de rejoindre l'ovule.
Oui, mais c'est tout de même pas un peu dangereux quand même, Philippe, tout ça ?
Si, si, évidemment. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas de médicaments stérile et le risque était grand d'attraper une infection génitale, occasionnant du coup la mort de cette femme ou encore la stérilité, surtout en l'absence de tout traitement antibiotique. Alors, revenons quand même à nos patients de l'Antiquité. Plus tardivement, un peu plus tard, dans l'époque gréco-romaine, le gynécologue et obstétricien Soranos d'Éphèse, on est au 2e siècle après Jésus-Christ, recommande de faire usage de morceaux de laine ou de charpie, donc des morceaux de tissu tout simplement, imbibés de produits astringents, comme par exemple du vinaigre, pour resserrer le col de l'utérus et empêcher le passage de la semence masculine.
Pardon, excusez-moi.
David est en train d'imaginer ça.
Ouais, non, j'étais très, très... Mais parce qu'il n'y avait pas encore de préservatif pour le zizi des gens ?
Alors si, il y avait quand même des méthodes qu'on va appeler un peu mécaniques, mais en fait, elles ne vont être véritablement développées qu'au cours des siècles suivants. Alors il y a le retrait, qu'on connaît tous, enfin, qu'on connaît en théorie. Il y a le préservatif, le pessaire occlusif intravaginal. Alors là, c'est une éponge qui est entièrement gorgée d'alcool et qu'on met entièrement à l'intérieur du vagin, voire même qu'on essaie d'enfoncer un tout petit peu dans le col. Et l'imagination est sans fin, mais on comprend bien le principe. C'est que la semence masculine ne doit pas rencontrer la semence féminine.
La semence féminine, on appelle ça comme ça à l'époque.
Et oui, à l'époque, on considère que la femme a une semence et pour certains praticiens, le sang des règles constitue cette semence. Il recommande donc d'avoir des rapports au moment ou alors à un moment proche de celui des règles pour augmenter les chances d'avoir des enfants. Ou encore de faire des rapports sexuels à distance des règles pour ne pas procréer. Évidemment, les résultats ont dû être un petit peu inverses.
Et la pilule alors, Philippe ?
Eh bien, la pilule, enfin, vient la pilule, la contraception, enfin efficace. Il aura fallu attendre le développement des connaissances physiologiques, notamment en endocrinologie de la reproduction, pour qu'aux États-Unis, une infirmière, Margaret Sanger, une biologiste et milliardaire, la mécène de toute cette démarche, Catherine McCormick, et l'endocrinologue Gregory Pincus, mettent au point la première pilule bloquant l'ovulation par action directe de la progestérone. 20 ans de recherche, une expérimentation pratiquée sur les femmes australiennes, françaises et portoricaines, dont des médecins avaient porté la candidature. Résultats initiaux plutôt mitigés. Les doses excessives ont occasionné des effets beaucoup trop secondaires, beaucoup trop désastreux. Mais comme Pasteur, eh bien Sanger et Pincus ne se sont pas arrêtés là, ils ont persisté. Moralité, mise en vente de la première pilule en 1957 aux États-Unis. Mais ce n'est pas encore une vraie pilule, c'est dans le cadre strict du traitement du rythme irrégulier des règles. Et du coup, elle n'est autorisée comme contraceptif que 3 ans plus tard, non sans l'opposition des gouvernements conservateurs et de l'Église qui la mettait à l'index. C'est sûr, ça marche moins bien. Alors il était temps quand même que cette pilule arrive. L'humanité l'attendait depuis 3,2 millions d'années. C'est l'ancienneté de l'australopithèque Lucy. L'injustice fait que malheureusement, le prix Nobel de médecine n'a jamais honoré cette innovation médicale au service des femmes et de l'humanité en général.
Mes aïeux, quelle époque ! Merci beaucoup, Philippe.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Philippe Charlier, et maintenant avec vous, David Cassé-Lopez, puisque vous nous racontez les origines d'une théorie à laquelle beaucoup de complotistes restent encore accrochés. On voit qu'un certain nombre de jeunes y croient encore. Oui. C'est la croyance en une terre plate.
À votre avis, Stéphane,
Depuis quand est-ce qu'on sait que la Terre est ronde ?
Ah ben on le sait depuis un sacré bout de temps. Depuis, je crois que même les Égyptiens, le ancien, le savaient.
Depuis 2500
oui,
ans.
C'est ça.
Depuis 2500 ans, au moins, ok ? Alors quand je dis on sait, on n'avait pas encore de photos et on n'était pas non plus allé dans l'espace pour vérifier.
Tard, quoi,
mais à peu près tous les gens un petit peu éduqués en avaient la certitude. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, certains philosophes présocratiques, comme Pythagore, que vous connaissez à cause du théorème, ils imaginaient déjà que la Terre était ronde. Pythagore, il était quand même légèrement pionnier, puisqu'à la même époque, Thalès, que vous connaissez aussi,
pour
son théorème. Je suis allé le revoir, du coup, le théorème de Thalès à l'occasion de la chronique. Je l'avais oublié. Hein, je ne saurais même pas vous dire exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est un théorème que vous connaissez. Lui, il disait que la Terre, c'était soit un disque, soit un cylindre. Donc, vous voyez, Pythagore était encore un peu pionnier. La rondeur de la Terre, elle a été confirmée au 4e siècle par Aristote, et dans son sillage, plus personne de sérieux, je vous le dis, ni à Rome, ni pendant le Moyen-Âge, n'en a plus douté. Et quand on y pense, c'est pas si compliqué de vérifier que la Terre est ronde de façon empirique. Les marins phéniciens, par exemple, quand ils approchaient d'Alexandrie, ils voyaient apparaître d'abord la lumière du phare, puis les lumières de la ville. Et on en déduit quoi de ça quand on est intelligent ? Eh bien que c'est la courbure de la Terre qui cache les lumières de la ville. Et pourtant, il y a une idée reçue très très ancrée dans la tête de plein de gens, y compris ma tête à moi avant de faire cette chronique. Cette idée, c'est que le Moyen-Âge, qui était dominé intellectuellement par l'Église, pensait que la Terre était plate. Mais c'est faux. Ils ne pensaient pas ça, en tout cas dans leur immense majorité. Et la question, ça devient donc, d'où vient cette idée qu'on croyait que la Terre était plate. Eh bien, il y a deux dames qui s'appellent Violaine Giacomotto Chara et Sylvie Noni qui ont écrit un livre précisément sur cette idée, livre qui s'appelle « La Terre plate, généalogie d'une idée fausse ». Selon Violaine et Sylvie, l'idée d'un Moyen-Âge teubé qui croit à la Terre plate, elle a d'abord été popularisée par Voltaire. Voltaire, il voulait démontrer que l'Église, c'était des gros, vraiment nuls de la vie qui se mettaient en travers du chemin de la science. Bon, parfois, ça a été vrai, hein, mais en tout cas, sur ce point-là, non. Et donc, il a écrit un pamphlet, Voltaire, dans lequel il a sorti des témoignages d'auteurs chrétiens marginaux qui, effectivement, pensaient que la Terre était plate, mais en présentant leurs idées comme complètement dominantes dans l'Église, alors que c'était faux. Et puis, il a mélangé la chose avec le procès de Galilée, qui lui a bien existé, mais qui portait non pas sur le fait que la Terre était plate, mais sur le fait que la Terre tournait autour du Soleil et pas le contraire, ce qui est beaucoup plus difficile à prouver. Même si, on le sait aujourd'hui, c'est 100% vrai, c'est aussi vrai que la Terre est ronde. Ça, c'est la première étape de la création du mythe du Moyen-Âge platiste. Mais il y en a une autre qui, elle, fait intervenir Christophe Colomb en héros de l'intelligence face à l'obscurantisme. L'idée que moi j'ai apprise quand j'étais petit, c'est en gros qu'on considérait que la Terre était plate jusqu'à temps que Christophe Colomb nous prouve le contraire. Et même, je me souviens qu'on disait que Christophe Colomb, il avait dû convaincre l'Église que la Terre était ronde pour financer son voyage. Et bien ça, encore une fois, c'est faux de sa race. Christophe Colomb, il devait trouver des financements et donc il a bien dû pitcher la faisabilité de son projet à des docteurs de l'Église. Mais dans ce pitch, il n'a pas été question de prouver que la Terre était ronde, mais de convaincre qu'il était possible de rejoindre les Indes par l'Ouest, malgré la distance et avec les moyens de navigation de l'époque. Et au passage, l'argument de Christophe Colomb, il tenait sur un calcul erroné de la taille de la Terre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'Amérique entre l'Europe et l'Inde, Colomb, il aurait crevé comme un gros pigeon au milieu de l'Atlantique. L'idée que Christophe Colomb était un type super éclairé devant l'obscurantisme de l'Église, pardon, qui, elle, croyait que la Terre était plate, elle a été tout simplement inventée par un auteur anglais du 19e siècle. Et elle a perduré tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, et même une partie du 21e, puisque c'était ce que je croyais jusqu'il y a pas très longtemps. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent vraiment que la Terre est plate. Alors, si on est honnête, il n'y en a pas beaucoup qui y croient vraiment de toute leur trip. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être complètement illuminé pour le croire. Je veux dire, il y a des photos, il y a des... Enfin, c'est quand même très, 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 très particulièrement beaucoup documenté. Mais en revanche, il y a plein de gens qui ne sont pas tout à fait sûrs que la Terre est ronde. Ils n'arrivent pas à en être complètement persuadés. En 2017, il y a eu un sondage IFOP qui a montré comme ça que 9% des Français étaient dans ce cas. Je ne comprends même pas comment c'est possible, mais c'est la vérité.
Merci David, on retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe. Mais surtout avec trois nouveaux personnages qui sont partis faire campagne en Espagne. Eux sont partis faire campagne militaire. Le connétable de France et de Castille, Bertrand du Guesclin, parti mener sa bataille la plus meurtrière en Espagne durant la guerre de Cent Ans. Puis André Malraux, qui s'est engagé aux côtés de la gauche républicaine face aux nationalistes de Franco. Et vous, Jean-Luc, vous nous racontez un homme politique parti faire campagne en Espagne aussi et qui sera en plus notre invité.
Vous êtes sûr ?
Ah bah oui, oui.
Ah, il est rentré de Barcelone alors ? Bah, je dresserai le portrait du Premier ministre devenu candidat à la mairie de Barcelone, Manuel Valls.
Devant lui.
No problemo.
Alors à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.